Nous allons maintenant évoquer les adaptations de l'œuvre de Céline au cinéma, au théâtre, la correspondance. Et pour cela, je vous présente Joanne Bénard. Joanne Bénard enseigne à l'université Queen's à Kingston, au Canada. Elle a publié sur Céline un livre sur la question autobiographique en 1999 qui s'appelle « L'interdit célinien ». Joanne, je vous laisse la parole pour présenter les intervenants. Je vous remercie.
Merci. On m'entend bien?
Oui.
C'est bon. Donc, je vais présenter les intervenants un à un. Je dois dire que j'ai changé un peu l'ordre de présentation parce que je devais parler en troisième et je vais parler en quatrième. Comme ça, s'il manque un peu de temps, ce sera plus facile pour moi de couper. Alors, la première intervenante, Sonia Anton, qui est maître de conférences en langue et littérature française à l'Université du Havre. Elle s'intéresse aux correspondances de la fin du 19e siècle, et notamment celle d'Octave Mirbeau. De même, bien sûr, ce qui explique sa présence aujourd'hui, de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline. Et on le sait, je crois, tout le monde, que la correspondance a été publiée dans la Pléiade l'année dernière. Mais Sonia Anton avait déjà publié son livre intitulé « Céline épistolier, écriture épistolaire et écriture littéraire » chez Quimet en 2006. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole.
Merci, Joanne. Oui, lorsque les organisateurs de ce colloque m'ont sollicité, ce dont je les remercie, ils m'ont demandé si j'acceptais de parler de l'œuvre épistolaire. Et c'est autour de cette notion d'œuvre épistolaire que je souhaiterais aujourd'hui vous soumettre quelques réflexions. A priori, il ne va pas de soi d'utiliser ce terme d'œuvre pour désigner un ensemble de lettres. Jusqu'à l'époque classique, les historiens de la littérature n'hésitaient pas à ranger les correspondances parmi les genres littéraires. Mais les choses changent au XIXe siècle, moment où le genre épistolaire bascule du côté de l'intime, après avoir été une pratique exclusivement rhétorique. Pourtant, on n'a jamais autant édité de correspondances qu'à l'époque moderne, et l'on peut parler ces 20 dernières années d'une véritable prolifération de publications. Les choix qu'opèrent les éditeurs témoignent du caractère ambigu et mouvant de l'objet-lettre. Certains corpus s'inscrivent à part entière dans l'œuvre intégrale d'un auteur, comme c'est le cas par exemple des lettres d'Antonin Artaud. Pour d'autres écrivains, il est question de correspondances générales publiées parallèlement à l'œuvre, comme celle de Flaubert ou de Georges Sand. Pour Céline, les éditions Gallimard ont choisi l'anthologie, qui constitue sans doute une première étape vers l'édification un jour d'une correspondance complète. Ajoutons que le prestige associé à la Pléiade donne à ces textes une reconnaissance institutionnelle. Le choix de l'allocution « œuvre épistolaire » est commode pour désigner les correspondances d'écrivains et cet objet-lettre dont la valeur esthétique est éminemment variable d'un auteur à un autre. La correspondance est alors perçue comme un lieu d'écriture spécifique, même si la question de sa littérarité reste entière. Cette question est plus simple pour les auteurs qui ont publié une partie de leurs lettres de leur vivant, comme André Gide, par exemple, car on considère qu'une intention d'art a présidé à l'écriture. Ce n'est pas le cas de Céline. Mais parmi les épistoliers les plus célèbres et les plus brillants figurent des auteurs, et non des moindres, qui ont répugné à l'idée de voir leurs lettres paraître un jour, tels Voltaire, Flaubert et Proust. Je me suis doublement interrogée pour Céline. Tout d'abord, en quoi ces lettres accompagnent-elles la production fictionnelle? En quoi forment-elles une œuvre épistolaire? Je préciserai que cette appellation ne s'applique pas à toutes les correspondances d'auteurs, qui peuvent s'avérer parfois très ennuyeuses et de peu d'intérêt. Puis je suis allée un peu plus loin. A-t-on affaire à une œuvre littéraire tout court, à part entière? Il est fort difficile de répondre à cette question sans se frotter aux définitions théoriques touchant aux frontières littéraires. On marche un peu sur des œufs. L'épistolaire fait depuis une dizaine d'années partie du programme du bac, mais seules les lettres à Sophie Volant de Diderot ont figuré à l'agrégation. On rencontre des positions très affectives, comme celles qui touchent aux lettres de Flaubert. Nombreux sont en effet les lecteurs de cet auteur qui placent sa correspondance au même niveau que ses autres œuvres. C'est un discours qui commence à être admis, même s'il reste naturellement controversé par les spécialistes, lui opposant des arguments de théorie littéraire. À mi-chemin entre le ressenti affectif et l'approche universitaire, je vais tenter d'énumérer ce qui, à mon sens, fait œuvre dans la correspondance de Céline, ce qui fait pencher ce corpus vers la littérature. Les lettres de Céline répondent en premier lieu à tous les critères permettant de définir une correspondance d'écrivain par opposition à une correspondance ordinaire. Elles forment un accompagnement inestimable de l'œuvre dont elles sont tour à tour l'antichambre et le reflet. Elles nous permettent de suivre la gestation et la jeunesse des romans et constituent en ce sens des pièces d'archives de la création. Elles sont aussi le lieu où se déploie la poétique célinienne, on l'a vu de façon magistrale dans le spectacle d'hier soir, le lieu où s'expriment des notions chères à l'écrivain. Cette poétique est presque exclusivement formulée au moyen de métaphores qui nous font aussi pénétrer dans l'imaginaire de l'auteur, car les obsessions de Céline sont intimement associées à sa conception de l'écriture. On rencontre ainsi plusieurs motifs appartenant autant à l'art littéraire qu'à l'imaginaire célinien. L'obsession de la mort et du temps qui passe, la rêverie générée par la mer et les éléments liquides, l'aspiration à la légèreté, notamment incarnée par les danseuses, et son corollaire, la hantise de ce qui pèse et enracine. Dans les images qu'elle déploie, la correspondance est traversée de moments de fulgurance dans lesquels s'expriment, de façon unique et reconnaissable entre mille, la voix et la prose de l'écrivain. En 1933, à propos du masque mortuaire d'une femme retrouvée noyée dans la Seine, on trouve ce développement sur le souvenir et sur le temps qui efface. Il faut ce genre d'occasion pour percevoir, tout au sourd de soi, cette persistance poétique chez les anonymes qui disparaît dans le silence aussi, sans laisser de traces, jamais. Un jour, quand je serai vieux, je ferai un livre dans ce sens, à la recherche des choses du cœur qui s'en vont. Sur l'obsession de la mort, à sa tendre amie Evelyne Paulet, en 33. Je ne suis guère qu'un instrument de travail, je me traite ainsi. L'existence est bien trop lourde et monotone sans un continuel artifice. Quelle atroce fatigue. Toute l'épaisseur de notre malheur nous sépare des moindres vérités, des plus tranquilles joies. Nous sommes voués à l'ennui. Notre vie n'est qu'une mort sans élan. Sur la lourdeur des hommes, à la même, en 38. Je ne suis qu'un ouvrier, vous savez, d'une certaine musique. Je cherche n'importe où mes notes, où je les trouve, dans le clair et dans les ténèbres. Tout le reste m'est infiniment indifférent, incompréhensible, paniquement ennuyeux. Ce monde me paraît extraordinairement lourd. Sur la légèreté et la rêverie, à Lucien Descaves en 47, à propos de ses confrères écrivains, ils ne savent pas encore comment transposer le parler en écrit. Ils s'agacent, ruent, tergiversent, confondent, vitupèrent, merdoient, c'est piteux. Ils prennent la brutalité pour du caractère et le biscornu, l'abracadabran pour du fantastique. Tous ces petits velléitaires manquent de songe. Ils ne sont portés par rien. Comment voleraient-ils ? En réfléchissant les obsessions de Céline, la correspondance devient miroir de l'âme, portrait de l'auteur, ce qui obéit à l'une des fonctions les plus classiques et anciennes du genre épistolaire. Céline livre beaucoup de lui-même dans sa correspondance, et celle-ci malgré lui, puisqu'il a toujours affirmé détester ce qu'il appelait le moi-moïsme, l'obscénité du discours sur soi. Cette correspondance soulève d'ailleurs d'autres paradoxes. Céline a déclaré bien souvent n'avoir pas d'idées à transmettre, n'avoir pas d'opinion. Pourtant, ses lettres, comme son œuvre d'ailleurs, sont traversées d'aphorismes, de sentences sur le monde et les hommes. Voilà encore une fonction très classique du genre épistolaire que Céline réinvestit, presque malgré lui. Les lettres accompagnent également l'œuvre dans la mesure où la vie de Céline a été la matière première de ses romans. Les destinataires de l'épistolier deviennent les personnages du grand théâtre qu'est sa correspondance et nous usons à nouveau d'une métaphore répandue à l'époque classique pour désigner les échanges épistolaires. Des figures qui deviendront personnages des romans se rencontrent et se croisent dans ses missives et sont souvent déjà accompagnées de leurs attributs romanesques. Le Vigan est un excellent poteau. Popole est jaloux comme 36 000 tigres, maléficieux comme 40 sorcières. Il est aussi défini comme une bourrique au minien alcoolique cabot qui fait 1 million par mois de barbouille et n'a jamais payé une thune d'impôt ou de loyer. Il a son numéro de bohème grand invalide, magique, moyennant quoi il dénonce. Dans cette lettre adressée à Albert Parras en 55, on est de plein pied dans l'univers de féerie pour une autre fois. Les lettres sont aussi le théâtre de l'édition des œuvres de Céline et de tous ses protagonistes. Si la correspondance est un théâtre, il ne fait pas de doute que Céline en est le metteur en scène, notamment pendant l'exil où il se transforme en chef d'orchestre, organisant sa défense littéraire et juridique et mobilisant toutes ses troupes d'amis, de relations, d'éditeurs et d'avocats. La rhétorique occupe dans ses courriers une place centrale. La correspondance d'un auteur est enfin le lieu où se construit la figure de l'écrivain, où l'épistolier peut s'affirmer comme auteur. Le terme de « construction » est particulièrement approprié à Céline. De façon lucide, l'auteur élabore dans ses lettres les contours qu'il souhaite donner à sa posture d'écrivain. Si l'on peut parler d'œuvre, c'est aussi que ses textes portent une intention, révèlent un travail d'autoportrait de l'épistolier en auteur. Cet autoportrait se réalise à coup de déclarations souvent provocatrices qui témoignent du désir de l'écrivain d'être tenu à la fois pour un cas unique, singulier et déterminant dans l'histoire littéraire. Je proposerai quelques échantillons de ces déclarations fracassantes. Sur la critique littéraire à un journaliste en 49. Et je reprends une citation que nous avons entendue hier soir. Le jugement de la critique est toujours idiot, celui du public pire, incompétent, bousilleur, pontifiant, aveugle, sourd, snob ou réactionnaire, jamais vrai, jamais juste, toujours de travers et à côté. Ô diable, ces millions de blablateux, cafouilleux, impuissants, ignobles. Sur sa place sur le marché littéraire, à son avocat danois en 46. Je me permets de vous rappeler que ma situation dans les lettres françaises est unique. Je suis l'auteur le plus cher et le plus exigeant du marché français. Je suis impitoyable, atroce. Mon travail est toujours impeccable, irréfragable, absolu. Mais mes convictions aussi. J'en arrive à ma seconde question. S'il ne fait pas de doute que la correspondance de Céline escorte la production littéraire, peut-on pour autant la qualifier d'œuvre à part entière, même s'il ne s'agit pas, bien sûr, de la placer au même niveau que les romans? Sans prétendre pouvoir répondre ici à cette question, et en prenant le parti de contourner aujourd'hui les distinctions théoriques, je me placerai simplement du côté du lecteur. Il me semble que la correspondance génère un bonheur de lecture qui fonctionne de façon autonome par rapport au roman. Ce plaisir de lecture confère à ces textes une valeur qui dépasse leur simple fonction génétique. Je vous livrerai quelques propositions pour tenter d'expliquer et de comprendre ce plaisir. Tout d'abord, depuis que les lettres ont été rassemblées en un seul volume, la correspondance peut se lire comme un récit fonctionnant de façon autonome, le récit de la vie de Céline. L'écrivain nous invite lui-même à opérer cette lecture en rappelant que son existence a donné matière à ses fictions. À Eugène Dabi. Je n'ai pas besoin, mon vieux, de fignoler mon destin pour le rendre littéraire. La vie me sert au-delà de toute prévision, je vous assure, et sans recherche, à moins qu'inconsciemment. Si l'on peut qualifier de littéraire le récit de la vie de Céline, particulièrement à même de happer son lecteur, c'est que cette existence a eu un caractère éminemment mouvementé, qu'elle est marquée par les ruptures, les conflits, les fracas, les fuites et les soubresauts. L'écrivain n'aura guère eu le temps ni le loisir d'enculagailler les mouches dans ses lettres, pour reprendre l'une de ses expressions. Cette correspondance s'inscrit par ailleurs dans un moment particulièrement perturbé de l'histoire, puisqu'elle est contemporaine des deux guerres mondiales. Elle peut se lire comme une vaste chronique, genre que Céline va lui-même choisir de pratiquer dans ses trois dernières œuvres. On sait qu'elle émane aussi d'un épistolier qui s'est frotté à l'histoire, on vient de le voir, de façon dramatique et scandaleuse pendant l'occupation, comme en attestent malheureusement plusieurs lettres. L'épistolier est par ailleurs une figure extrêmement paradoxale, fort atypique, à la voix et à la parole puissante et excessive. Rien n'est jamais en demi-teinte ni fade dans ce qu'écrit l'épistolier. Le moins que l'on puisse dire est que Céline a eu un caractère bien trempé. En 1933, il justifie par cette phrase la radicalité de son allocution sur Zola. Le sens des nuances me fait défaut. Cette déclaration est programmatique de toute la correspondance. L'est aussi celle où Céline utilise la métaphore de l'écorchement, mettre sa peau sur la table, pour parler de son existence et de sa façon d'être au monde. À Henri Mahé en 47. J'ai payé pour tout, effroyablement payé. Les autres trichent, truquent. Je suis toujours prêt à mettre ma peau sur la table. Tout dans ses lettres est frappé de démesure. La colère comme la joie, la souffrance comme l'indignation, l'apitoiement comme l'enthousiasme. Jean Paulhan a considéré que les lettres de Céline s'apparentaient à celles d'un fou. Albert Parras semble avoir reproché à son ami de souffrir de cyclothymie, ce qui était une façon délicate d'évoquer son caractère insaisissable. Il est certain que l'épistolier est un personnage, tel qu'on l'entend dans la vie courante, à défaut d'être un personnage de fiction. Sur la dimension excessive et fougueuse de cette prose épistolaire, j'ai voulu extraire quelques citations qui toutes frappent par la démesure de ce qui est affirmé. Démesure dans la souffrance et le pessimisme, à Cilly-en-Bord, en 32. Il y a des jours où la vérité elle-même me dépasse. Je n'ai pas assez de force pour réaliser toute son horreur, humaine et mondiale. Il faudrait que je m'oublie pour oublier, que je me laisse moi-même quelque part dans un champ sur le fumier. Je ne suis plus qu'une espèce de cauchemar qui marche et qui ne tient plus beaucoup à continuer à vivre. Démesure dans l'indignation, à son avocat, sur ses démêlés juridiques avec les successeurs de Noël, dont Jean Voilier, Jeanne Voiliton. Il est sorti du cercueil de ce malheureux toute espèce de vermine et de funambule et qui s'arroge des droits extravagants sur mes ouvrages. D'où me tombent, d'où jaillissent tous ces grotesques, brandissant les contrats du mort, pillards notariés. Je voudrais que mon caractère ignoble, ma puanteur trahisonne, ma félonie vérolière fassent rugir le tribunal, qu'il en foudroie la voyée et son maudit bazar. Des mesures dans l'apitoiement et la plainte. À ses fidèles amis Tuzet et Mahé, sur les mots générés par la prison, dans un développement qui rappelle Ferry. Cette foutue pélagre me revient, me mine, vitamine ou pas, connerie, prison que je paye, cachot, etc., saloperie. J'ai la peau du cul qui gerce, des scams, la gueule qui ride, les os qui me taraudent. Les traités ne racontent que des conneries. C'est la bonne vie qui conserve l'homme, le bonheur, le malheur, la misère, le tue. Un point, c'est marre, des conneries tout le reste. Des mesures dans l'enthousiasme et l'engouement esthétique. À Evelyne Paulet, en 33, sur la beauté des femmes. Vous avez deviné, semble-t-il, que j'aimais la perfection physique des femmes jusqu'au délire. C'est une vérité que je vous livre. Elle commande toutes les autres. Cette correspondance est aussi particulière par son ton. Tout y est toujours soit terriblement tragique et désespéré, soit comique. Dans leur versant tragique, les lettres font d'une vaste élégie, forme traditionnelle à laquelle Céline donne un souffle nouveau et singulier. Mais c'est sur le versant comique que je voudrais insister. La correspondance accorde une place importante au rire. Pour peu qu'on y soit sensible, elle développe toutes les palettes du comique célinien. La capacité à faire rire est affirmée par l'épistolier, notamment pendant l'exil. À son avocat, en 47. Je possède encore, Dieu merci pour le rire, une palette assez riche, tous les tons. Le rire franc, le rire jaune, le rire coucou, le rire cocu, le rire comme on n'a jamais ri. Mais 17 mois de cellule, 4 ans d'exil, l'alali du monde entier, c'est trop. Même pour un écrivain comique, le rire figé. On peut parler du comique, de la caricature et de l'injure. Les échanges avec les éditeurs sont sans doute parmi les plus illustratifs, notamment dans l'irrévérence de Céline envers Gaston Gallimard. Jeanne Voilier est une coxigrue qui lui tombe de la lune par on ne sait quel micmac fantastique. Gaston Gallimard, un coffre-fort qui fait blabla, un maquereau des méninges. Jean Paulhan est rebaptisé Anémone Languide. Froissart est qualifié de fiéfé pandard acharné culotté coquin. L'excès et l'incongruité avec lesquels Céline se dépeint en victime voisinent avec l'autodérision qui va se déployer pleinement dans les romans. La figure du pitre est assumée très tôt dans la correspondance et accrédite l'idée que Céline a construit dans ses lettres un discours et une image. À Joseph Garcin, en 33. Évidemment, dans les interviews, j'amuse la galerie. Pitre autant que je peux. Puis il utilisera les images du saltimbanque miteux, du vieil hibou loqueteux. Pendant l'exil, il est un squelette de maréchal des logis, le bouc puant de la furie des envieux, le gugus des plus éculés charognards de guerre. Enfin, et nous aurions pu commencer par cela, naturellement, la correspondance de Céline s'identifie par son style. On ne peut confondre une lettre de Louis Destouches avec aucune autre, tant on y reconnaît la plume de l'écrivain. La lettre, qui depuis ses origines doit reproduire l'art de la conversation, était sans doute la mieux à même d'accueillir les phénomènes d'oralité et les effets de dialogue chers à Céline, auxquels elle offrait dans le même temps un terrain d'expérimentation. La diversité des destinataires a également permis à l'auteur de s'exercer à toutes les palettes stylistiques et rhétoriques. Enfin, la première personne épistolaire a pu préparer le jeu de la narration. Consciemment ou non, l'épistolier fait ses gammes. Que dire sur ce style de façon synthétique? Tout d'abord qu'il surgit sous la plume de l'épistolier dans les années 30, en même temps que Céline entre en littérature. Parmi les phénomènes stylistiques céliniens figure la présence d'une langue populaire travaillée. En 1934, c'est la voix de Barnamu que l'on entend dans cette lettre à Joseph Garcin sur la pratique médicale. Avec la médecine, je suis gâtée, vous pensez? Le cancer, mes pilons, ça les émeut. Ah, ils la perdent, leur superbe, leur vacherie. Enfin, ils sont supportables, abordables. Puis on peut parler de l'inventivité avec laquelle Céline mélange en permanence les registres, des distorsions qu'il fait subir à la grammaire et au lexique, de la cadence que l'épistolier insuffle à ses phrases. Dans le détail de l'écriture, ces lettres nous conduisent de surprise en surprise, de trouvailles en trouvailles, et génèrent un bonheur de lecture comparable à celui que l'on goûte en lisant les romans. C'est là un phénomène assez rare que je n'ai pour ma part rencontré dans de telles proportions qu'avec Céline. Je citerai une dernière lettre adressée à son ami Jacques Mourlet, qui se propose de rendre visite à Céline au Danemark. Ce passage a aussi le mérite de nous laisser imaginer le roman que l'écrivain devait écrire sur l'exil, s'il en avait eu le temps. Mais tout d'abord, trêve de rigolade. Je ne suis pas du tout sûre de mon sort. J'ai un an de newf, je sais, et puis spoliation totale et à vie. Esclave, en somme, dégradé fini, viande pour qui veut rigoler. Et pas aguichante, la dépouille. Aller me faire glairer par les rues du monde indéfiniment, ça fait pas une jolie fin d'existence. Faut mieux pas y penser. Vous êtes tout à fait chérie de me proposer la matérielle aide, je vous en embrasse. Mais là, j'aime mieux crever que d'encombrer les personnes. Pas de chapeau. Ah, des sardines, quand vous viendrez, je suis vachement preneur. Un peu marre des harengs baltiques. Le sentiment, c'est ça qui compte. Plus la sardine, bien entendu. Quand on a refermé le volume des lettres de la Pléiade, qui se lit aisément d'une traite, comme un roman, on reste habité un instant par l'idée que l'on a entendue, le temps de la lecture de ces lettres, la voix de Céline. Je vous remercie.
Merci Sonia. Donc, on aura le temps pour une ou deux questions assez brèves pour chaque présentation. Donc.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle, plus particulièrement sur cette intervention ?
Bon. Alors, on va passer à la deuxième intervention, celle d'Émile Brami. Émile Brami a fondé en 1999 la librairie d'anciens d'un livre l'autre, consacrée en partie à Céline, sur laquelle il a d'ailleurs écrit une biographie littéraire, « Céline, je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple ». De même qu'un essai original sur le rapport entre Céline et Hergé au titre assez évocateur que vous connaissez peut-être, « Céline, Hergé et l'affaire Haddock ». Ces deux livres ont été publiés aux éditions Écriture. D'ailleurs, depuis octobre 2008, Émile Brami est le directeur littéraire de la collection Céline et compagnie chez ce même éditeur. Il a également initié et a été le maître d'œuvre du DVD Céline vivant aux éditions Montparnasse en 2007. Et il est aussi écrivain. Donc, son livre Le manteau de Vierge a été publié chez Fayard et a reçu le prix Méditerranée. Et finalement, bien sûr, pour ceux qui avaient le bonheur d'être là hier, il a choisi les textes de Céline pour le beau spectacle qu'on a vu hier de Denis Lavant. Voilà. Alors, je lui cède la parole.
Bien, alors, je vais vous parler de Céline au cinéma. Ce qu'on peut dire à propos de Céline au cinéma, c'est que c'est une très, très vieille histoire, puisqu'elle commence avec la grand-mère Guillou, qui emmène le petit Louis voir les films de Méliès. Et d'ailleurs, dans une lettre, Louis-Ferdinand Céline dira « La lune, je connais, j'y suis déjà allé ». On retrouvera ensuite le cinéma dans « Voyage au bout de la nuit » avec les pensionnaires de l'asile d'aliénés qu'on enferme dans une salle et à qui on repasse en boucle le même film afin qu'ils se tiennent tranquilles. On sait aussi qu'on a retrouvé très récemment Céline comme figurant dans une courte séquence de Tovarich de son ami Jacques Deval, tournée en 1935. Il faut aussi se rappeler que les premières œuvres de Céline, si on excepte Des Vagues, qui est quand même un texte assez insignifiant, ont été écrites pour le théâtre, et que donc on est déjà dans une forme de dialogue, et qu'on pourrait imaginer que l'Église serait l'ébauche d'un scénario de film. On pourrait s'en servir aujourd'hui pour, si on voulait écrire le scénario de Voyage au bout de la nuit. On oublie aussi assez fréquemment que Céline a écrit directement pour le cinéma au moins trois textes, puisqu'on connaît Secret dans l'île qui a été publié en 1933 pour l'anniversaire du prix Renaudot, Arletty, jeune fille dauphinoise, qui est présentée comme un scénario lui aussi, et enfin Scandale aux abysses, qui lui est présenté comme un argument de dessin animé. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, Céline a toujours eu un formidable désir, c'est celui de voir adapter Voyage au bout de la nuit au cinéma. Et de façon tout à fait normale, cet écho s'est retrouvé parmi le milieu cinématographique. Et ce dont on peut s'étonner aujourd'hui, c'est que 75 ans après la publication de Voyage au bout de la nuit, aucune des œuvres de Céline n'ait été portée à l'écran. On peut s'en étonner doublement, puisque l'idée de filmer Voyage au bout de la nuit, c'est une idée qui vient tout de suite. Comme on le sait, le livre est sorti en octobre 1932. Or, moins de 4 mois après, le 4 mars 1933, les éditions de Noël vont céder pour la somme de 300 000 francs les droits du livre à Abel Gance. Et Abel Gance, à ce moment-là, sa carrière commence déjà à battre de l'aile. Il a déjà un certain nombre de problèmes à trouver des producteurs. Et il sait bien que s'il arrivait à réaliser ce roman, qui est un roman de scandale, qui est un roman sulfureux, qui est aussi un extraordinaire succès de librairie, ça relancerait sans doute sa carrière. La personne qui va faire le lien entre Céline et Gance, c'est Élie Faure, qui est l'ami des deux personnes. Et d'ailleurs, après l'achat des droits, donc le 4 mars 1933, Faure écrit à Gance ceci. « Je crois qu'on peut tirer un très beau film de cette orgie littéraire qui s'accorde assez bien avec votre génie tumultueux. Mais il faudra faire appel à tout ce que vous pourrez découvrir en vous de mesure et d'équilibre, justement pour maintenir dans l'ordre bondissant de son cœur et du nôtre cette épopée multitudinaire. Quel tableau à brosser, la guerre, l'Afrique, l'Amérique des buildings et des girls, la banlieue sordide, l'asile d'aliénés. Je voudrais être à votre place. » Donc on commence à travailler autour de ce film et il s'agit de faire un premier découpage qui est confié à un journaliste bordelais qui s'appelle Maurice Norman et qui n'a pas laissé d'autres traces que celle-ci. Norman a eu vent du projet par un ami, c'est lui-même qui s'est proposé. Le 17 décembre 1933, il envoie 22 feuillets qui sont dialogués et qu'il a intitulés « L'arrivée à New York ». Le travail n'est pas fameux du tout. Gance est un esprit extrêmement brouillon qui a toujours 1000 projets sur le feu et donc il abandonne assez rapidement le projet de Voyage au bout de la nuit pour un film absolument médiocre qui s'appellera Polish et dont plus personne ne parle aujourd'hui. Donc on en restera là avec ce projet. Mais Céline n'est pas quelqu'un qui se satisfait de l'échec et donc à partir de 1933, plus exactement du mois de juin, il va se faire son propre démarcheur. Il écrit par exemple le 23 juin 1933 à Robert de Noël « J'ai rencontré à Prague le metteur en scène Jung Bans. Il se pourrait qu'il s'entende avec moi pour tenter à Paris la mise en film du voyage. Il viendra en septembre. » Jung Bans ne s'appelle pas Jung Bans, en réalité il s'appelle Jung Hans. C'est quelqu'un qui fera par la suite aux États-Unis une carrière de documentaliste. Mais là encore, il est cité dans deux lettres et on n'entendra plus parler de lui. Ça ne va pas décourager Céline qui, pendant l'été 1934, est aux États-Unis pour essayer de reconquérir Elizabeth Craig. Mais en même temps, comme c'est un personnage toujours pragmatique, eh bien, il va essayer de vendre son livre à Hollywood. Il est aidé pour cela par Jacques Deval, chez qui d'ailleurs il va aller passer quelques jours. Mais là encore, malgré l'entremise de Deval, il n'y a aucun succès. Et on retrouvera l'écho de cet échec, par exemple, dans Bagatelle pour un massacre, lorsque Céline s'attaquera de façon très, très violente aux producteurs juifs de Hollywood. Par la suite, il y aura aussi de très nombreux réalisateurs de l'entre-deux-guerres, et parmi les plus connus, qui auront à leur tour au moins la velléité de porter à l'écran Voyage au bout de la nuit. Alors, il y en a eu beaucoup, on peut citer les plus connus, donc Julien Duvivier, Pierre Chenal, Claude Autant-Lara, et Audiard prétendait dans les années 1970 que le nom de Jean Gabin avait été avancé pour jouer Bardamu. Là encore, rien n'aboutit. De façon très étonnante, alors que Céline, pendant l'occupation, est à l'apogée de sa gloire, alors que la Continentale produit des films à tour de bras, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le cinéma français, il n'y a pas une seule trace d'un seul projet autour d'une adaptation de Céline. Ensuite, Céline va connaître le long tunnel que l'on connaît, et il faudra attendre le retour d'exil et aussi le succès d'Un château l'autre pour voir apparaître d'autres tentatives. Là, on va parler d'une adaptation de Voyage par Jean Anouilh. Claude Autant-Lara va manifester son intérêt pour le voyage, et cet intérêt va même aller jusqu'à la commande d'une musique, il existe une lettre à ce propos, à Jean-Claude Descaves, qui est le petit-fils de Lucien Descaves, qui avait défendu le livre pour le prix Goncourt. Dans l'entourage de la NRF, Roger Migné va avancer le nom de Louis Malle pour, à son tour, essayer d'adapter ce film. En fait, il va y avoir d'innombrables projets après la mort de Céline. Alors, après la mort de Céline, à peu près tout ce qui compte dans le cinéma français, ou même étranger, à un moment ou à un autre, va avoir envie ou va prétendre vouloir faire Voyage au bout de la nuit. Là encore, on peut citer beaucoup de noms, Claude Berry, Jean-Claude Rassam, René Clément, Téchiné, Corneau, Vadim, Malle, Godard, Miloš Forman aussi. Tous ces gens-là voulaient faire le voyage. Il y a quand même quelqu'un qui va se singularisé, c'est Maurice Pialat. Maurice Pialat, lui, voulait faire Mort à crédit. Et quand on connaît le cinéma de Maurice Pialat, là, on peut vraiment regretter que le projet n'est pas abouti. Pourtant, dans tous ces noms, il y en a trois qui émergent. Ces trois noms, c'est Michel Audiard, Sergio Leone et Jean-François Sévenin, qui, chacun à sa manière, a eu envie d'aller un petit peu plus loin que le simple effet d'annonce des autres metteurs en scène. Le premier, celui qui fera le plus de bruit médiatique, c'est Audiard. Audiard, tout au long de sa vie, n'a cessé de clamer son admiration pour Céline. Et en 1964, il déclare à La Voix du Nord que le voyage va être tourné très bientôt. Il est en train de rédiger l'adaptation. On a trouvé un metteur en scène, ce sera Fellini. Belmondo va jouer le rôle de Bardamu et Shirley MacLaine sera Molly. On a trouvé aussi le financement, il est bouclé et c'est 1 milliard de francs, c'est-à-dire d'anciens francs, hein, c'est-à-dire une somme absolument colossale pour l'époque. Et enfin, Madame Destouches a donné son accord à l'adaptation. Le projet, là aussi, n'ira pas plus loin, mais quasiment jusqu'à sa mort, dans la presse, à de très très nombreuses reprises, j'ai compté plus d'une quinzaine d'interventions, Audiard ne cessera de revenir à ce projet. Il finira par dire dans un article à Elle que finalement, c'était plus une velléité, c'était plus un fantasme qu'un projet. Sergio Leone est lui aussi un très grand admirateur de Céline. Il a accordé des entretiens au journaliste de cinéma Noël Simsolo. Et dans ces entretiens, il dit « Céline vous marque jusqu'à la mort. J'ai souvent pensé en faire un film, mais je sais qu'il ne serait pas raisonnable de toucher un tel chef-d'œuvre. Quand j'aime un auteur, j'étouffe d'un sentiment de pudeur. Je suis aussi un auteur en tant que cinéaste, spontanément, je trahirai l'œuvre de base de Céline. J'en ferai quelque chose d'autre et je ne sais pas s'il faut le faire. » Enfin, Jean-François Sévenin, avec qui j'ai eu des entretiens, fait partie des originaux puisque lui ne veut pas adapter Voyage au bout de la nuit, mais il veut mettre en scène Nord. Alors, il raconte très volontiers le film tel qu'il l'imagine. Ce serait une histoire sans chronologie. Il voudrait une espèce de rêve éveillé et, comme il dit, un film sur la fatigue et l'épuisement. Mais le problème, c'est que jusqu'à ce jour, il n'a pas écrit une ligne de scénario. C'est plus dans son esprit un fantasme, quelque chose qu'il aime à raconter. Ce qu'on peut dire, c'est que parmi ces trois projets qui sont peut-être les plus avancés, en fait, aucun n'était destiné véritablement à aboutir. On peut plus les voir, du point de vue de leurs auteurs, comme des fantasmes qui sont destinés à nourrir leur création plus qu'une véritable adaptation. Les deux dernières tentatives connues à ce jour se sont elles aussi soldées par des échecs. La première est celle de François Dupeyron, qui a réalisé par ailleurs La Chambre des officiers, film qui est assez proche, quand on le voit, de ce que a pu écrire Céline sur la Grande Guerre. Dupeyron déclarait en 2004 « Je travaille seul depuis 6 mois à l'adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline, avec l'impression d'avoir en permanence une peau de banane sous la semelle. Il est inouï, ce livre. Vous découvrez des choses à la 10e lecture, mais vous pouvez aussi rester 1 mois bloqué sur une scène. Si j'arrive à tourner le voyage, je ne sais pas si j'y parviendrai. Je ne ferai plus ensuite d'autres films. » En avril 2005, le magazine Le Point annonçait qu'une première version du scénario était terminée. Et puis, sans aucune autre explication, Dupeyron abandonne le projet. Quand on l'interroge sur les raisons de cet abandon, il répond « Je n'y suis pas arrivé parce que je n'y suis pas arrivé ». Le dernier projet est celui de Yann Moix, qui, auréolé du succès du film Podium, à son tour a voulu se lancer dans l'aventure. Mais lui aussi a une approche un petit peu différente, puisqu'il ne veut pas adapter le voyage, mais le transposer à notre époque. Voilà ce qu'il disait. « Je ne prends qu'une partie du roman, la guerre de 14, l'arrivée à New York, l'Afrique, et je piquerai ici ou là dans l'ensemble de l'œuvre de Céline. Mais ça se passera de nos jours, mon Bardamu est un médecin humanitaire, sa guerre se livrera contre le terrorisme dans les tours du World Trade Center le 11 septembre. Cela s'appellera d'ailleurs « Un voyage au bout de la nuit » et on peut être soulagé, je pense, que ça ne se fasse pas. Et d'ailleurs, à son tour, comme tous ses prédécesseurs, Moix abandonne sans donner aucune explication. Alors, il faut quand même constater qu'il y a là un grand mystère, parce que beaucoup de textes réputés, eux aussi, comme le voyage inadaptable, ont été portés à l'écran, certes avec des bonheurs divers, mais ont été portés à l'écran. On peut citer, par exemple, plusieurs adaptations catastrophiques de La recherche du temps perdu. On peut parler aussi de Under the Volcano, on peut parler de Lolita. Donc, des universitaires, des gens qui s'intéressent à Céline, se sont posé la question de savoir quel texte de Céline se prêterait le mieux à une adaptation cinématographique. La première d'entre eux, Annie Gillin, en 1978, au terme de sa réflexion, qu'il serait trop long de développer ici, opte pour Ferry pour une autre fois. Et elle déclare les raisons suivantes. Car Céline dans Ferry aurait fait, je cite, « l'abandon de la narration propre au roman classique en envisageant son texte comme une parodie de cinéma et de son fonctionnement auprès du public ». Dans une communication qu'elle a faite en 1979 au colloque de Paris, Christine Sottermeister, elle, penche pour casse-pipe, qu'elle associe à ce qu'on appelle les œuvres de caserne qui ont été dans l'entre-deux-guerres un genre très prisé et qui ont créé ce qu'on appelait le vaudeville militaire. Ces vaudevilles militaires, on peut en citer quelques-uns, par exemple les tirs au flanc de Renoir en 1927, les gaietés de l'escadron de Maurice Tourneur en 1932, ou bien les dégourdis de la 11e de Christian Jacques en 1937. C'est un genre extrêmement prisé. Et si Christine Sottermeister penche pour casse-pipe, c'est parce que, je cite, « le texte fourmille de descriptions faisant fonction de véritables indications scéniques sur les jeux de physionomie, les gestes, les déplacements et même les groupements des personnages ». Et elle ajoute par ailleurs qu'il y a des scènes de burlesque dignes des Marx Brothers. La personne qui a le plus travaillé sur Céline au cinéma s'appelle Olivier Rucheton. Il est malheureusement mort aujourd'hui. En 1991, après avoir complété les travaux des deux auteurs précédents, dans son mémoire qui s'appelle « Approche cinématographique de casse-pipe de Louis-Ferdinand Céline », il penche pour casse-pipe. Enfin, le dernier chercheur à s'être intéressé à ce sujet, c'est Corinne Chua, qui en 2002 désigne Ferry comme une tentative de roman multimédiatique, lequel, naturellement, inclut le cinéma. Au terme de ces recherches, il y a quelque chose qui est assez amusant et qu'il faut constater. D'abord, c'est que les chercheurs retiennent les deux romans que personne n'a jamais songé à adapter. Ça, c'est la première des choses. Les chercheurs ne retiennent pas non plus, de façon très curieuse, les textes que Céline présente comme des pièces de théâtre, des arguments de ballet ou même des scénarios. De la même manière, les cinéastes, eux, de leur côté, n'envisagent de filmer seulement Voyage, Mort à crédit ou Nord. Alors là, on a un curieux hiatus qu'on peut peut-être expliquer par l'écriture de Céline lui-même. En effet, après le demi-échec de Mort à crédit, Céline prend conscience, en tout cas il va le déclarer à de nombreuses reprises, que la masse ne sait plus lire. Et parce que pour lui, le roman désormais est totalement désacralisé, ramené à un objet de marché, c'est-à-dire quelque chose qui se vend et qui s'achète, donc à un produit de consommation, et qu'il est désormais en tant que produit de consommation en concurrence directe avec le cinéma. Et si l'écrivain veut échapper à cette concurrence, il se voit contraint, et il le répétera à plusieurs reprises, d'inventer une forme d'écriture qui puisse entrer en compétition avec l'image. C'est le fameux « il faut toucher le lecteur directement au nerf ». Donc il s'agit, et c'est ce qu'il entreprendra après Mort à crédit, de transformer son style de façon radicale, de bousculer les schémas habituels de la narration hérités du roman classique. Et on retrouvera, résumé en une phrase, ce projet dans la préface de Guignol Bands, où il écrit « Vous écrirez télégraphique ou vous n'écrirez plus du tout ». Donc Céline abandonne au cinéma la fonction narrative et illustrative qui était jusque-là dévolue au roman. Puisqu'il ne peut plus raconter d'histoire imaginaire, ça c'est le rôle du cinéma, eh bien il va faire désormais mine d'emprunter à la réalité, il parle désormais en son propre nom et il simplifie à l'extrême la trame de ses récits. C'est ainsi qu'on peut par exemple résumer l'argument de Féry 2 au bombardement de Montmartre par l'aviation alliée en 1944. Il choisit aussi de montrer ses personnages uniquement de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va supprimer tout commentaire ou toute investigation psychologique autour de ses personnages, et il les limite, comme des acteurs de cinéma, à ce que l'on peut voir d'eux, à savoir leur enveloppe physique, leurs actes, leurs gestes. Il les ramène à la matérialité des corps. Ils apparaîtront même dans des situations qui sont souvent les mêmes, parfois répétitives, avec les mêmes mots. Et après Casse-pipe, qui est peut-être le dernier roman bavard de Céline, les dialogues sont absolument réduits au minimum, parfois même totalement inexistants. En revanche, on va voir apparaître l'emploi de plus en plus fréquent de l'onomatopée, qui va se fonctionner dans les romans comme une véritable bande-son qui vient habiller le récit. Par exemple, dans Féry 1, on a les brumes, les vracs, les vrangues. Dans Féry 2, ce sont les brangues et les crutes. Et dans Rigaudon, on va trouver un certain nombre d'onomatopées, là aussi très très fortes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans la deuxième partie de son œuvre, Céline ne se rattacherait pas au cinéma muet, mais au film sonorisé, dont l'apogée, je pense, et le chef-d'œuvre reste Les Temps modernes de Chaplin. Et si on regarde Les Temps modernes de Chaplin, même si on sait que les deux hommes ne se sont pas connus, en revanche, il est certain que Céline a vu les Temps modernes, puisqu'il le cite dans Bagatelle pour un massacre. Et on retrouve finalement dans Les Temps modernes cette espèce de mélange d'empathie pour les personnages, de sentiments outranciers, de violence, de condamnation du machinisme déshumanisé, qui n'est pas sans évoquer certains passages de Mort à crédit, et je pense tout particulièrement à la salle des machines dans Mort à crédit et à la salle des machines qu'on peut voir dans Les Temps modernes. Et d'ailleurs, par les formes syncopées qu'appelle Céline, son écriture devient plus une écriture de la juxtaposition qu'une écriture de la continuité. Elle s'éloigne ainsi de la littérature pour se rapprocher du cinéma. Et les rares descriptions de décors se font pratiquement sans couleur, donc on peut dire, sans se tromper beaucoup, que Céline ne tourne pas en couleur, mais qu'il tourne en noir et blanc. D'ailleurs, à partir de la trilogie de l'exil, la construction des romans se fait en flashback, et que ces flashbacks sont empruntés à la grammaire narrative du cinéma. Le découpage se fait en séquence, avec des va-et-vient permanents. Excusez-moi, je dois conclure. Pardon. Donc je voulais dire simplement en conclusion que malheureusement on a échappé, on n'a pas eu de film tourné par Céline, et que moi mon grand regret, c'est que Tardy, lorsqu'il a fait sa bande dessinée, enfin son illustration de voyage, n'ait pas eu le culot, n'ait pas osé en faire une véritable bande dessinée, parce que je considère que la véritable adaptation de voyage aurait dû être faite par Tardy, que là, elle aurait été formidable et que malheureusement, elle n'existera pas. Voilà, merci.
Absolument laisser de la place, la scène à quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'il y a même une question?
Donc, oui. Une question, oui?
Oui, une question, une petite observation. Émile, je ne pense pas que tu aies cité Claude Autant-Lara. Si? Ah, ça m'a échappé, excuse-moi.
Si, Claude Autant-Lara, deux fois.
Ah, pardon.
Une première fois pendant l'entre-deux-guerres, et ensuite, il se trouve que je possède personnellement la lettre de Céline, dans laquelle il demande à Jean-Claude Descaves de faire la musique. Et non seulement il demande à Descaves de faire la musique, mais il cite les chansons que l'on chantait à l'époque et qu'il aimerait voir dans la bande son.
Très bien, excuse-moi, j'étais distrait. Non, mais... Alors, ce que je voulais signaler avant de poser ma question, c'est qu'il y a un projet du comédien Christophe Malavoy.
Alors, oui, je connais ce projet, j'y ai même un petit peu participé, mais ça n'est pas du tout un projet d'adaptation. Ce n'est pas un projet d'adaptation de texte, c'est un projet qui consisterait à, en fait, comment dirais-je, c'est un, pareil, c'est battu, pardon, fabriqué en flashback entre Céline Amedon et Céline Assigmaringen. Et je peux dire que l'auteur a une intuition extraordinaire parce qu'il veut proposer le rôle de Céline, il veut que ce soit Jacques Dutronc, et quand on y réfléchit deux secondes, c'est absolument formidable.
Et alors l'autre chose que je voulais signaler, mais ça c'est en dehors de l'objet de ta communication, c'est qu'il y aurait, à mon sens, une communication intéressante à faire sur la présence de Céline dans des films de fiction. Alors, par exemple, hier on a eu cet extraordinaire comédien Denis Lavant, qui a été l'auteur fétiche de Léos Carax. Or, il se trouve, comme tu le sais très bien, que dans les films de Carax, il y a beaucoup d'hommages poétiques, même à Céline.
Alors, j'avais malheureusement... Enfin, bon, j'ai pas pu le dire, mais il y a beaucoup de... Enfin, je considère qu'il y a beaucoup de séquences de films qui sont inspirées de Céline. Bon, en un mot, par exemple, pour en citer qu'un seul, si on regarde aujourd'hui les Chinois à Paris... de Jean-Yann, c'est vraiment une décalque, mais vraiment une décalque de ce que dit Céline à propos de l'arrivée des Chinois. Et par exemple, la scène de la cave de Cognac, elle est dans le film. Elle est dans le film. Et il y a d'innombrables films dans lesquels on retrouve des séquences. Par exemple, la séquence du médecin avorteur de Carnet de balle avec Pierre Blanchard est littéralement tirée de Céline. Et ce que dit Tardy, c'est que si on met bout à bout les séquences qui ont été inspirées de Céline, finalement, on a Voyage au bout de la nuit. Voilà. Mais j'ai pas eu le temps de... Voilà.
Bonjour. Oui.
Pardon, excusez-moi.
Sur le côté.
Ah, pardon.
Oui. Bonjour. Par rapport au fantasme cinématographique qui plane sur toute l'œuvre de Céline, oui. je crois qu'il serait bon de citer le roman de Marc-Édouard Nabe, qui s'intitule Lucette, et qui a pour objet précisément... Oui. L'obsession de Stévenin de tourner Nord et pourquoi finalement il n'y parvient pas. C'est un des moteurs du roman.
Je vous passerai le texte, ça y est aussi.
Ok, donc.
Hein ? Mais c'est déjà fait.
Alors, ce sera la toute dernière question, malheureusement.
Oui, Claude Engly. Vous avez parlé de dessins animés.
Oui.
Avec un projet. Mais personnellement, je pense que les ballets sans parole, etc., seraient un objet extraordinaire de dessin animé. Je pense par exemple à Scandale aux Abysses. Je vois, moi, quand je lis ce texte, je vois un dessin animé. Avec les bateaux qui passent, avec la petite sirène.
C'est
Est-ce que par exemple un Chaumet ne serait pas idéal pour
ce genre? Je ne connais pas de projet de la sorte.
C'est dommage.
Céline lui-même présentait cette, comme un argument de dessin animé d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est illustré de la façon qu'on sait dans l'édition originale.
Pourquoi, à votre avis, les auteurs de dessins animés ne sont jamais intéressés à...
J'en connais pas beaucoup, mais je dirais par ignorance.
Bon, alors on va s'arrêter ici, d'autant plus que Scandale aux Abysses, c'est un texte que connaît bien Tania Tinsley, qui est la prochaine intervenante et qui va peut-être nous en parler. Tania Tinsley enseigne le français à Missouri State University à Springfield, au Missouri. Elle a reçu son doctorat en langue et littérature française de Washington University in St. Louis en 1997. Elle a publié plusieurs articles intéressants sur les rapports de l'œuvre célinienne au féminin. Des articles qui portent sur Voyage, Mort à crédit, Ferry pour une autre fois. Et elle a publié récemment dans la revue d'études céliniennes un article particulièrement intéressant justement sur les personnages féminins, surtout dans le scénario d'argument pour la bande dessinée, comme on voudra l'appeler, Scandale aux Abysses. Alors je lui laisse aujourd'hui la parole. Je ne crois pas qu'elle va parler de Scandale aux Abysses, mais peut-être un tout petit peu par la bande.
Bon, tout d'abord, bonjour. Je dois... remercier d'abord les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, enfin, d'avoir participé et d'avoir permis ma participation à ce colloque. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, je ne veux pas forcément vous parler directement de scandale aux abysses, mais je vais parler plus largement de la question de la synthèse du féminin chez Céline. Donc, le sujet est très vaste, et l'analyse représente un travail qui évolue. Donc un travail qui n'est pas forcément très figé, mais ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont quelques pistes de lecture pour résoudre quelques contradictions ou résoudre enfin, la question enfin, des représentations féminines dans l'œuvre, aussi bien enfin, quand il s'agit de personnages très précis qu'un aspect féminin dans l'écriture et dans l'œuvre, enfin, une présence, disons, diffuse du féminin dans l'œuvre. Donc, dans les considérations de la question de Céline et les femmes, on a souvent voulu voir un rapport de violence pure ancré dans un esprit misogyne. Entre Céline et le langage, on a souvent voulu voir aussi un rapport de violence ancré dans un esprit novateur. Pour créer, il faudrait casser, dirait-on. En fait, les deux composants de l'œuvre célinienne représentent un lieu de synthèse essentiel qui se font avancer l'un et l'autre. Après tout, Céline lui-même a précisé « Je parle le langage de l'intimité des choses. Il a fallu que je l'apprenne, que je l'épelle d'abord. J'ai tout jaugé. » La synthèse du féminin dans l'œuvre en est multiple, en fait. Elle a lieu à plusieurs niveaux et entre plusieurs éléments. Il y a la synthèse entre l'abstrait et le concret, la voix et le chant, le corps et le langage, ou le corps et l'écriture. Mais le féminin se trouve toujours au centre de toute synthèse. L'élément féminin, souvent contradictoire ou problématique, occupe une place essentielle quand on considère l'art de Céline. En fait, quand l'intimité des choses s'associe à l'écriture, l'analyse du texte et du féminin chez Céline se révèle très intéressante, parce que les aperçus de Ferdinand sur le féminin et l'écriture commencent dès Voyage au bout de la nuit. L'exemple suivant concerne le personnage féminin de Musine, et je cite « La mignonne qui féminisait si joliment la vaillance française et guerrière. Musine avait su se créer, il faut l'avouer, un petit répertoire très coquet d'incidents de guerre et qui, tel un chapeau mutin, lui allait à ravir. » Elle m'étonnait souvent moi-même par son tact et je dus m'avouer, à l'entendre, que je n'étais en fait de bobard qu'un grossier simulateur à ses côtés. La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie, notre indispensable et suprême espérance. Nous attendons auprès d'elle qu'elle nous conserve notre menteuse raison d'être. Mais tout en attendant, elle peut, dans l'exercice de cette magique fonction, gagner très largement sa vie. Musine n'y manquait pas d'instinct. Évidemment, une tension physique et sexuelle se laisse entendre dans ce passage, dans la mesure où il y a une fusion érotique qui permet une sorte d'interrogation sur le langage comme action, comme texte et comme écriture. Ceci correspond précisément à l'exercice célinien d'écriture et de création. Personne ne peut nier la prépondérance de femmes en posture sexuelle, que ce soit dans la correspondance ou dans les romans, dans les projets de pièces de théâtre aussi. Mais celle-ci ne vise pas à exprimer une haine de la femme, quelque chose qu'on a souvent voulu reprocher à Céline. Le texte doit représenter le vivant, le vécu, le vrai, dans leur intimité. Le féminin, dans les romans, rapproche Céline à ses qualités. Que l'incarnation soit une danseuse, une vieille femme, une jeune mourante, ou même un paysage. Il y a souvent des passages dans Voyage au bout de la nuit où il y a un élément féminin diffus qui imprègne enfin, toute la scène. Dans Féerie pour une autre fois, le narrateur lui-même évoque une grossesse symbolique en parallèle à sa création littéraire à plusieurs reprises et à plusieurs degrés. Et je cite « Elle m'enfourre encore plein les jambes, entre les jambes des paquets de liasses » ou encore dans une version intermédiaire de l'œuvre. Et je cite encore, « Ma paperasse au bide, en somme, je la couve. » Bien plus tôt, dans l'œuvre célinienne, dans l'église, on trouvait déjà la déclaration de deux personnages. Il y a Vera qui dit à Ferdinand, Tant que vous vivrez, vous irez entre les jambes des femmes demander le secret du monde. » Et Ferdinand, qui réplique, « Vous m'aidez à comprendre. » Donc on pourrait se demander comprendre quoi. Mais je pense que c'est là toute la question de légèreté, de lumière, de dentelle, enfin, qu'il tisse ses textes, en fait. La synthèse, du féminin permet de révéler les liens entre les présences féminines concrètes et abstraites et le développement du langage célinien. Le personnage de Lola, dans Voyage au bout de la nuit, est le premier à intégrer les deux aspects féminins. Au départ, complaisante au sexe, elle initie Ferdinand à cette profonde aventure mystiquement anatomique, le message d'un nouveau monde. Lola se métamorphose en cible de violence quand le narrateur constate qu'un corps luxueux, c'est toujours un viol possible. Une effraction précieuse, directe, intime, dans le vif de la richesse, du luxe et sans reprise à craindre. Il faut préciser que l'idée de synthèse du féminin n'oblige pas l'auteur à inscrire sur la page une représentation positive féminine, mais tout simplement la mise en texte de la femme. Les actes de violence qui visent un personnage féminin paraissent des voyages, avec les scènes de fausses couches, d'avortement, de viol, ainsi que des projets de meurtre où la victime serait une femme. Il existe un effet de lecture sans identité fixe aussi dans l'œuvre de Céline. Ce féminin diffus respire ou se fait remarquer aussi par son absence dans les lieux que traverse le héros, y compris un tramway, une maison close ou un asile. Souvent, ce féminin s'exprime par un regroupement de personnages figurants qui, donc ce regroupement n'a pas d'identité individuelle distincte, mais qui forme un tout, une sorte de masse ondulante remplie de désirs, comme dans le cas des amis de Lola dans Voyage. La nature éphémère de cet érotisme virtuel oblige Ferdinand de renouer contact sans cesse avec des personnages féminins et de recommencer la mise en écriture d'une présence féminine associé souvent à la lumière. Et je cite, « J'ai été me traîner vers les lumières, un cinéma. J'en ai choisi un, moi, de cinéma, où il y avait des femmes sur les photos en combinaison. Et quelles cuisses !» Ces deux incarnations d'une présence féminine s'intercalent et s'accompagnent dans l'œuvre. Ou, par exemple, l'endroit où le paysage prenne résolument un aspect féminin, où il y a aussi un personnage femme qui aide à explorer ou à déchiffrer l'endroit. Elle en devient une sorte de filtre. En fait, la théorie de lecture se trouve son lieu textuel idéal dans l'œuvre de Céline, vu l'effort conscient de l'auteur de brouiller définitivement toute possibilité de saisir un personnage stable et établi. Il n'y a personne dans la film filtre, il n'y a que le langage, l'écriture, la recherche d'une transcription du moment où la matière devient la vie. Pour illustrer ceci, il faut se tourner vers l'épisode de Molly dans Voyage. Physiquement, Molly attire Ferdinand. Cette Molly, tout de même, quelle femme, quelle généreuse, quelle carnation, quelle plénitude de jeunesse, un festin de désir. Molly, elle, reconnaît chez Ferdinand un besoin d'écrire et un talent pour les langues. Elle l'encourage vers une carrière de traducteur. Mais en dépit d'un certain repos trouvé auprès de cette femme, le personnage de Bardemu continue à écrire. Il compose des petites nouvelles dans la cuisine à lui seul. Ses compositions, cette écriture sont secrètes, mais renforcent le lien entre elle et une présence féminine imprécise et diffuse. Au même épisode chronologique dans le texte, l'absence du féminin se fait remarquer par l'ami de Ferdinand, Robinson. « Je t'ai reconnu tout de suite, Ferdinand, à la manière que t'es monté dans le tramway. Figure-toi, rien qu'à ta manière dont t'étais triste quand t'as trouvé qu'il n'y avait pas une femme. » Par le dialogue interne de Ferdinand, le lecteur prend conscience de la tension entre le concret représenté par Molly, et un érotique féminin abstrait lié à la vie. Il y a une deuxième catégorie de synthèse qui se passe dans l'œuvre de Céline. Et ceci, c'est un peu plus technique, un peu plus scientifique. Donc, je vais vous donner des définitions. Donc, la première, la synthèse, comme je vous ai dit, a lieu de plusieurs façons et à plusieurs niveaux. Donc, tout le monde sait qu'une synthèse est une formation artificielle d'un corps composé à partir de ces éléments. Mais aussi, et ceci rejoint la lumière dans le texte, la synthèse additive est un principe de mélange de couleurs observable par projection sur un écran blanc de taches ou parties décalées de lumière rouge, verte et bleue. Donc la synthèse du féminin dans ce sens-là se trouve clairement dans Guignol's Band et Féerie pour une autre fois. Et il faut se concentrer dans ces deux œuvres-là sur les personnages de Virginie et de Lily. Donc, une des premières rencontres entre Ferdinand et Virginie reprend les couleurs de synthèse lors d'un contact physique. Et ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a toujours un contact physique qui a lieu au moment de la projection de ces couleurs. Donc, je cite, « Je lui prends fermement la main. Il se passe alors là, justement, quelque chose d'extraordinaire. » Toute une merveille devant nous, plutôt entre les arbres et nous. C'est un énorme buisson de feu, et quelle clarté, rosâtre et verte, scintillante, avec quelques fleurs de lumière jaune ou bleue piquées dans les branches. Tout ce buisson de feu palpite, je le palpite aussi, en même temps que les roses. Je me fascine aux lueurs, aux ardeurs du feu. La lumière et les chairs se trouvent associées dans le texte encore. Le lecteur devient témoin d'un moment de désir délirant, et violent de Ferdinand. À la fin de ce roman, Virginie est enceinte, conséquence du viol, mais le lecteur reste sur l'image d'un pont franchi et sur le son des rires de Sosthène et de Virginie. Donc le rire va revenir aussi associé au personnage de Lily dans Féerie pour une autre fois. Donc justement, Lily représente la réalisation de la femme filtre dont j'ai parlé plus tôt, qui est capable de rendre à Ferdinand l'accès plus ou moins définitif à l'espace féminin de création. Les pages de Féerie pour une autre fois développent la cohabitation de son aspect féminin, indéterminable et silencieux, avec son être tangible et expressif qui ressent et exprime un désir. L'instabilité de son prénom intensifie la dualité de ce personnage. Bien que l'on ne puisse pas désigner sans réserve Arlette comme la représentation de la femme et Lily comme celle des femmes, parce que les deux prénoms apparaissent dans le texte pour désigner le même personnage, elles finissent par se faire synthétiser par un artiste sous le regard de Ferdinand et dans une atmosphère de tension et de désir. Ce personnage représente le point culminant de la synthèse entre le concret et l'abstrait. Donc, je vais vous citer encore le passage où il y a la synthèse de Lily, parce qu'il y a des mêmes couleurs qui reviennent. Donc, et je cite ici, dans le texte, l'artiste Jules confirme à Ferdinand, « Je te la synthétise, et croquant, faut que je la modèle. » La pâte d'abord, puis la glaise. La synthèse a lieu de plusieurs façons, mais c'est en voyant la répétition de couleurs et d'images et de mots que nous reconnaissons la création et l'association faite par Céline entre l'art et une présence féminine. Donc, dans Féerie pour une autre fois, au moment justement de cette synthèse, il y a l'expression du désir sexuel de Lily. Il y a aussi son rire. Donc, c'est la première fois que nous entendons vraiment ce personnage. Et par la suite, elle vit une sorte de chute dans le langage. Donc, sa voix commence à exprimer la modération, le calme ou même le banal face aux crises de colère de Ferdinand. Donc, l'évocation célinienne du sens corporel féminin accorde au personnage une sorte de contrôle nouvelle de l'expression de sa sexualité et de son désir. Les personnages évoqués ici, donc Lola et Virginie, sont cibles de violence à un moment donné dans le texte. Et c'est une violence qui est souvent généralisée à toute femme qui entre dans l'univers célinien, dans la vie ou dans l'œuvre. Le fait de lier l'écriture et l'art à une présence féminine ne cherche nullement à faire de Céline un écrivain féministe, ni à établir un message idéologique féministe dans l'œuvre. Cependant, il faut reconnaître la facilité de produire des lectures qui fassent surgir une féminité dans le texte, surtout par rapport au narrateur et son texte, puisque Céline amène le regard du lecteur sans arrêt vers les domaines d'expérience uniquement et exclusivement féminines, ou vers les personnages masculins qui sont eux aussi féminisés. Mais ça, c'est un autre sujet. Le cumul de tous les exemples de personnages ou de présence équivoque, mais quelque part avec un aspect féminin, mène tout lecteur avisé à tirer la conclusion suivante. Certes, il y a une qualité misogyne qui se manifeste par moments dans les écrits de Céline. Cependant, cibler cette qualité comme l'approche déterminante de l'auteur simplifie à tort l'univers et les personnages créés, ainsi que les idées articulées dans ses œuvres. Une lecture attentive de tous les romans, et il faut vraiment lire tous les romans pour retrouver les répétitions, démontre que Céline n'enferme pas, n'exploite pas le féminin dans un langage péjoratif. En fait, l'auteur implique ce langage pleinement dans son art. Justement, enfin, dans la correspondance, à un moment donné, il confirme aussi un regret de ne pas être femme, parce qu'il associe la femme à l'art. Dans ses textes, il crée à répétition des allusions, des images et des parallèles entre la création écrite et l'accouchement d'un enfant. Des héros des temps modernes se tournent vers le féminin, et Céline, comme auteur, en fait autant. Le résultat textuel dans l'œuvre de Céline reste ouvert et moderne, dans le langage choisi ou bien créé, et dans les personnages féminins, parce que ces personnages sont les lieux privilégiés d'innovation dans la fusion ou la synthèse de l'abstrait et du concret. C'est par leur intermédiaire que Céline arrive à la limite de l'intimité des choses. Dans sa mise en texte du féminin et de la femme, l'art célinien se range entre la misogynie et le féminisme et permet au lecteur de faire un choix. Je vous remercie.
Merci Tania. Alors on aura le temps pour une toute petite question sur un grand sujet.
Pas de questions?
Bon. Okay. Alors, je vais me donner la parole. Alors, après le beau spectacle d'hier et avant celui de ce soir, que vous dire des rapports de Céline, de l'œuvre de Céline avec le théâtre? En fait, je voudrais voir avec vous, et très brièvement, tout autant ce que le théâtre apporte à Céline que ce que Céline apporte au théâtre. D'abord, ce qu'il me faut vous rappeler, mais je pense que j'ai plus besoin vraiment de vous rappeler, c'est qu'avant Le Voyage au bout de la nuit, il y a bien une pièce de théâtre, L'Église. Et par contre, je crois qu'on n'a pas dit que Céline considérait ça comme un échec, mais on n'a pas cité donc Céline qui a dit que pour lui, c'était L'Église une chose à lire et pas à jouer. Alors, ce qui pour des praticiens de théâtre, surtout maintenant, je crois, pourrait paraître comme, paradoxalement, peut-être comme une invitation à essayer de le monter. Parce que, est-ce qu'il y a des textes injouables? C'est peu probable. En effet, trois ans plus tard, donc il ne faut pas attendre l'époque contemporaine, la pièce va être jouée par une troupe d'amateurs de Lyon. Il faut aussi vous rappeler, très rapidement, que Céline a écrit en 1927 une seconde comédie, c'est comme ça qu'il l'appelle, « Progrès », dont certains éléments seront repris dans Mort à crédit et qui sera publié, ce sera une publication posthume en 78. Et puis, Alors, Émile Brami en a parlé, un certain nombre de scénarios, arguments de ballet, scénarios de films, alors ces textes un peu hybrides, mais dont on ne parle pas beaucoup en rapport avec le théâtre, finalement. Parce que quand on pense à un Céline théâtrale, on ne pense pas tellement à ses œuvres marginales, la même chose pour le cinéma, en fait. On pense plutôt maintenant au Céline qui a été adapté ou transposé au théâtre. Et cela depuis quand même 50 ans. Alors, il n'y a pas eu vraiment de cinéma, mais il y a eu quand même du théâtre. Alors, de son vivant, d'abord, des acteurs ont lu Céline. Alors, je pense aux célèbres enregistrements de Michel Simon et d'Arletty pour les disques Urania en 56, mais aussi, par la suite, d'autres acteurs ont lu Céline à haute voix pour des émissions de radio. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs, et je vous passe toute la liste, dont Jean-Louis Barrault. Pour le théâtre, cela remonte à 1967, et justement, il s'agit de l'Église qui est montée à Rome, puis en 69, un montage de texte au Centre américain de Paris. Depuis, Céline a été présente sur la scène de théâtre, l'Église qui a été remontée plusieurs fois, et surtout, je dirais, entretien avec le professeur Y, qui est monté une première fois en 1975 au théâtre Firmin-Génier d'Antony, avec Jean Rougerie dans le rôle de Céline et Jean Saudré dans celui du professeur. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le texte de la pièce est publié dans le numéro 584 de l'avant-scène en 1976. Entretien avec le professeur Y, et d'ailleurs le texte de Céline qui a été repris, peut-être, je n'ai pas fait de statistiques, le plus souvent pour la scène. Il y a la production de Rougerie elle-même qui a été reprise en 76, 78, 80, 81. En 98, une autre production, celle-là, dont on n'aurait pas de trace, d'une compagnie qu'on s'explique. Et puis, certains d'entre vous ont eu la chance de la voir, et ce n'est pas mon cas malheureusement, une adaptation de la compagnie Chronos à Rennes en 2007 avec Julien Ball dans le rôle de Céline et Sébastien Durand dans celui du professeur, production qui a été reprise en 2007, puis il y a deux ans, en février 2009. Il y a également l'adaptation d'Igor Futterer avec Roland Farrugia dans le rôle de Céline, Marcel Filippo dans celui du professeur, de janvier à avril 2008, sous le titre, alors cette fois-là, pas Entretien avec le professeur Y, mais La Nord-Sud, qui est la première ligne de métro ouverte à Paris. Alors, on trouvera des comptes rendus de ces, d'excellents comptes rendus de ces productions dans la revue des titres céliniennes pour la compagnie Chromos, Olivier Moncharmont, et pour la production d'Igor Futterer, donc le compte rendu d'Émile Brami. Alors, faut-il en déduire que Entretien avec le professeur Y, le texte hybride qui hésite entre l'art poétique et le roman, est celui qui se prête le mieux à l'adaptation théâtrale? Il est certain que la forme dialoguée du texte et l'unité de temps, de lieu et d'action semblent le prédisposer au théâtre. Mais tel que le diront les metteurs en scène contemporains qui l'ont monté, cette prédisposition est peut-être trompeuse. D'abord, il y a la difficulté de garder la cohérence des dialogues en supprimant les liens narratifs. Mais surtout, et cela vaut pour tous les textes de Céline, la difficulté de transposer, et j'emploie ce terme plutôt que celui d'adapter, la difficulté donc de transposer la langue de Céline, qui est en elle-même une transposition de la langue parlée. Alors, transposer Céline, est-ce une difficulté, une impossibilité, un paradoxe, un défi? J'opte pour le défi de ce que j'appelle la double transposition, et je dirais ainsi que les meilleures transpositions, adaptations de l'œuvre de Céline seraient celles qui prennent en compte ce défi, voire ce paradoxe, et qui n'essaient pas de faire passer directement la langue de Céline au théâtre. Alors, pour moi ici, il faut au théâtre recréer, retransposer cette langue que Céline a créée pour donner, alors il faut insister, donner l'illusion de la parole. On entendrait donc au théâtre un autre Céline. Un Céline qui peut être décalé, une parole en décalage par rapport à la langue écrite de Céline. C'est pour cela, à mon avis, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer Céline, mais que toutes les bonnes adaptations de l'œuvre de Céline, parmi lesquelles je compte celle de Denis Lavant, bien sûr, et celle de Fabrice Luchini, s'appuient sur un réel travail de l'acteur qui fait sienne la langue de Céline, la recrée pour la scène. Là-dessus, je me permettrai d'ailleurs de citer Igor Futterer dans un entretien qu'il a accordé à Émile Brami et dont on trouve des extraits dans le numéro 4 de la revue d'études céliniennes. Alors, Igor Futterer qui dit « Je me suis employé à ne pas restituer, mais à déformer le système rythmique mis en place par Céline. Il me semblait nécessaire que la musique soit en apparence celle si reconnaissable de Céline, mais qu'elle soit aussi différente, en décalage. Avec Denis Lavant hier soir, et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir le spectacle, je vous rappelle le titre du spectacle, donc « Faire danser les alligators sur la flûte de Pan », donc un spectacle composé par Émile Bramy, d'ailleurs. Donc, avec Denis Lavant, c'est donc la langue célinienne qui était reconnaissable et en même temps légèrement décalée, déplacée, transposée. On entendait, à mon avis, hier, à la fois la voix de l'œuvre de Céline et celle de l'acteur, comme s'il y avait le jeu de deux paroles, la langue écrite célinienne et la parole de l'acteur qui la joue et qui, pour la jouer, la retravaille, lui prête son souffle, sa respiration, son corps. Cela était d'autant plus perceptible chez Denis Lavant que ce jeu était très physique, que la voix ne paraissait jamais détachée du corps, qui la projetait dans toutes sortes de positions, l'acteur habitant tout à la fois, je dirais, le texte de Céline et l'espace de la scène. De même, le rapport aux objets, je fais référence à la prodigieuse scène avec les livres, permettait d'accentuer la présence du corps de l'acteur qui incarnait la voix célinienne. J'insiste, la voix du texte célinien et non la voix de l'auteur, que Lavant imite bien à un moment, quand il y a l'interview avec l'Express, et qui est reproduit à la fin du spectacle grâce à un enregistrement, ces deux incursions de la voix de l'écrivain, l'une imitée, l'autre réelle, enregistrée, se distinguent de l'ensemble de la performance, mais ne servent pas, à mon avis, de point de référence au spectacle. Le spectateur ne ressent pas vraiment l'envie de les comparer à la performance de l'acteur. C'est la voix célinienne et non la voix de l'auteur que le spectacle a cherché et a réussi, selon moi, à recréer, à retransposer sur scène. On me permettra ensuite d'anticiper sur le spectacle à venir de Fabrice Lucchini. Lucchini a aussi, en quelque sorte, souligné le travail de transposition et il a dit dans un enregistrement, Lucchini, qu'il avait son défi consistait aussi à reproduire le souffle et le rythme du texte de Céline, celui, disait-il, que l'on retrouve dans l'intimité de la lecture, et il dit, à mon avis, quelque chose d'intéressant, il doit transposer sur scène et emporter avec lui un ensemble d'interlocuteurs, le public, auquel le texte original n'était pas destiné. Je dirais que le jeu de Lucchini, qui insiste sur le théâtral plus que celui de Denis Lavant, ne ménage pas ses effets, repose, selon moi, sur la recherche d'expressivité poétique grâce aussi à un travail sur la voix. C'est un jeu dans lequel le rythme prime en mettant en relief les contrastes d'une voix qui s'emballe ou qui ralentit, les écarts de diction de l'acteur qui tantôt ménage, tantôt escamote les transitions, tantôt agglutine, tantôt distingue les différentes unités de sens. Bref, encore une fois, c'est un jeu qui recrée, retranspose le rythme célinien plutôt que de chercher à le reproduire. De même, il faudrait mentionner les modulations de la voix de Lucchini qui lui permettent d'interpréter les discours des personnages qui sont fondus dans le monologue célinien. Maintenant, très brièvement, je voudrais aborder la question des rapports de l'œuvre de Céline au théâtre dans l'autre sens, soit ce que le théâtre apporte à Céline, ou dit autrement, ce que Céline emprunte au théâtre. En premier, je voudrais signaler quelques épisodes romanesques qui évoquent le théâtre. Dans Voyage, le poème guerrier récité par une comédienne de la Comédie-Française, la tragédie que joue la mère assistant à l'agonie de la fille mourant d'un avortement, dans Gingosban, les scènes shakespeariennes que joue Delphine, la gouvernante excentrique de Van Claben, quand elle emprunte rien de moins que les rôles de Juliette et de Lady Macbeth, de même que dans Ferry pour une autre fois et la trilogie Le jeu de Norbert Lavig. À chaque fois, dans tous ces passages, le narrateur célinien décrit le jeu théâtral comme une émotion intense qui fait vibrer, ce verbe revient souvent, ses personnages, acteurs ou actrices. Mais aussi, car chez Céline, le théâtre est perçu d'abord comme un art de la parole qui fait en premier vibrer la voix. Pour Céline, ainsi, l'émotion n'est pas seulement dans la langue parlée, elle est dans la voix, surtout celle de l'acteur. Je dirais ainsi qu'à l'instar de la langue parlée, la parole de l'acteur telle qu'elle est imaginée, voire fantasmée chez Céline, permet de resensibiliser la langue. Dans toute l'œuvre de Céline, ces scènes de théâtre montre non seulement l'importance du théâtre pour Céline, mais constitue au même titre que les autres métaphores de la transposition une façon de parler de son style, de son écriture comme travail de la voix et de son émotion. Pas étonnant donc que ce soit des performances comme celle de Denis Lavant et de Lucchini qui nous ramènent à Céline et à l'émotion, comme si ces performances avaient été programmées par le texte même de Céline. En deuxième lieu, je voudrais proposer qu'il est possible de lire Céline aux côtés de les deux grands dramaturges que sont Molière et Shakespeare. Sur les rapports de Céline et Molière, je vous renvoie à l'excellent article de Suzanne Lafont dans le dernier numéro de Magazine littéraire, où elle montre, à mon avis de façon convaincante, que Céline pourrait, par ses propres pièces hybrides qui empruntent au ballet, faire référence aux intermèdes chantés dansés de Molière, qu'il aurait par ailleurs lui-même endossé l'habit de plusieurs personnages de Molière, Tartuffe, Alceste, Scannarelle, et que dans Rigaudon, la posture qui le hante est celle de l'artiste mort à la tâche, comme Molière l'a été dans Le malade imaginaire. Quant à moi, c'est plutôt les rapports de l'œuvre de Céline à l'œuvre de Shakespeare qui m'ont intéressée et continuent de le faire. Bien sûr, la référence de Céline à Shakespeare n'est pas nouvelle chez les Céliniens, et on vient juste de l'entendre dans l'interview où Céline, à la fin, dit que les hommes sont trop lourds et qu'ils sont moins Ariel que Caliban. Une autre citation connue, « Il faut que j'entre dans le délire, que je touche au plan Shakespeare, car je suis incapable de construire une histoire avec l'esprit logique des Français. » On pourrait penser, certes, que cette façon d'associer le délire au plan Shakespeare n'est que circonstancielle, ne fait référence qu'à des clichés, des idées reçues sur Shakespeare. Pourtant, il y a dans la correspondance de Céline trop de références à Shakespeare pour ne pas prendre cette filiation au sérieux, malgré ce qu'en dit Céline et que nous disait Denis Lavant hier, qu'il est grotesque d'avoir un père étranger. Puis, et surtout, il y a la présence de Shakespeare dans Guignol's Ban et les références de Macbeth dans les lettres. Dans Guignol's Ban, il faudra me croire sur parole, car je n'ai pas le temps de le démontrer, Céline transpose Macbeth, c'est-à-dire que non seulement la pièce, comme les fantômes de Macbeth, hante Céline au moment de la rédaction du roman et se retrouve dans les rêves mi-éveillés de Ferdinand, aux prises avec sa culpabilité, mais encore les répliques de la pièce elle-même de Shakespeare ont été, au même titre que la langue parlée, transposées dans le roman de Céline. Encore là, il faudra me croire sur parole, la façon dont le texte célinien intègre, fait sienne, réécrit les répliques shakespeariennes, n'a pas fini de nous étonner et de nous interpeller. Le rapport de Céline à Shakespeare est un pan de l'œuvre qui mérite d'être étudié. Céline aurait-il été, du reste, fascinée par la musique de Shakespeare comme l'a été de l'anglais? En conclusion, mais aussi pour ouvrir la discussion, qu'on n'aura pas le temps de faire, en fait, je voudrais maintenant me demander avec vous ce que le Céline au théâtre de la deuxième décennie du 21e siècle pourrait être. On doit souhaiter, bien sûr, que des acteurs comme Denis Lavant et Fabrice Lucchini continuent de faire entendre la voix, non la voix de Céline, mais la voix du texte de Céline. On doit aussi espérer que des compagnies théâtrales, comme celles qui ont produit ces dernières années des adaptations des entretiens, continuent de faire revivre des textes de Céline. Espérer aussi que l'on découvre des mises en scène audacieuses, comme celle dont je n'ai pas eu le temps de parler, de Franck Castorf avec son adaptation de Norden, présentée à Avignon en 2007, et de Castellucci, présentée à Avignon en 2009 et intitulée « Concerto d'après-voyage au bout de la nuit ». Ces productions qui continuent d'explorer l'œuvre de Céline et qui, malgré leurs infidélités flagrantes avec cette œuvre, plongent, à mon avis, au cœur de l'émotion du texte de Céline, qu'elle recrée, à proprement parler, mimant avec des moyens et procédés théâtraux la transposition célinienne. Et finalement, ce sera mon tout dernier point, on doit souhaiter surtout que le texte de Céline, transporté sur la scène, continue de nous faire vibrer, de nous ébranler. Mais que dirait Céline, peut-on s'amuser à imaginer, Céline qui se croyait injouable, de voir ses textes sur scène? On peut penser, certes, que d'abord, il récuserait ses adaptations, ses copies de son œuvre, lui qui en avait contre la littérature non authentique. Mais aussi, on peut penser que celui qui fustigeait le cinéma et la télévision, qui nous éloignait, à son avis, de la littérature, était bien près de concéder que le médium théâtral est celui qui permet le mieux de saisir cette émotion évanescente qu'il tentait de capter par l'écriture. À l'heure du réalisme ou de l'hyperréalisme du cinéma hollywoodien et du faire vrai des téléréalités, c'est bien le théâtre qui nous rapproche de la vie, Céline dirait, hommes, bêtes et choses. Mais aussi, paradoxalement, c'est le théâtre qui est le plus à même de démasquer l'illusion, alors que le cinéma s'emploie le plus souvent à l'effacer. Céline, qui a cherché à masquer l'illusion, à effacer les traces de la transposition, n'a pourtant pas cessé de nous en parler. Que le spectacle d'hier ait beaucoup parlé de l'art poétique de Céline n'est peut-être pas une coïncidence, car au théâtre, l'écriture de Céline nous fait tout autant vibrer que, dans ses décalages, elle révèle son caractère fabriqué, qui est bien aussi son génie. Céline, aux côtés de Molière et de Shakespeare, pourquoi pas ?